La foi numéro 57. La foi dans les cinq ministères numéro 4. Comment s'approcher de la foi? Le 1er janvier 2018. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin nous allons continuer notre étude sur la foi, et nous allons étudier une parabole se trouvant dans Luc 13, 6-10, qui parle du figuier stérile, et qui nous enseigne comment s'approcher de la foi. Avant de lire, je voudrais relever le fait que presque tous ceux qui ont prêché sur cette parabole se sont concentrés sur le fait que cet arbre n'y portait pas de fruits, et c'est pourquoi Jésus a maudit l'arbre. Et ils placent leur pensée sur la scène où Jésus maudit le figuier, et ils disent qu'il l'a maudit parce qu'il n'y portait pas de fruits. Et tellement de sermons insistent sur la nécessité de porter beaucoup de fruits, comme si c'était la chose essentielle à faire. Et si vous n'y portez pas beaucoup de fruits, il se peut que vous soyez finalement maudit. Maintenant, je n'y crois pas un seul instant qu'il s'agit de cela dans cette parabole. Il se peut qu'il soit vrai que la Bible nous enseigne que nous devons porter des fruits, mais je n'y crois pas un seul instant que l'arbre fut maudit parce qu'il n'y portait pas de fruits, ni parce qu'il manquait de fruits, et nous verrons pourquoi je dis cela dans quelques instants. Mais, lisons d'abord cette parabole dans Luc au chapitre 13. Luc 13, 6-7. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Maintenant, le mot « occuper » cumbret, dans le texte anglais, ou « encombrer » en français. Non du trad n'est-ce pas utilisé dans notre vocabulaire ordinaire. C'est-à-dire pourquoi il nous faut savoir ce qu'il signifie. Et dans notre dictionnaire, il signifie simplement « sous-employé » ou « sous-exploité » ou « sous-utilisé le sol ». En d'autres termes, il dit « cet arbre occupe un sol précieux, mais Néhémie produit rien en retour ». Ainsi, Néhémie perdant plus d'inestimables énergies sur cela. Et c'est la même évaluation que tout missionnaire doit faire quand il dépense de l'énergie et des fonds dans certaines régions du globe. Y a-t-il du fruit produit dans cette région? Ou est-ce juste une perte de temps et d'argent? Parce que les gens semblent n'y pas progresser dans la parole. Mais observez ce que le vigneron dit. 8 Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. 9 Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit? Sinon, tu le couperas. 10 Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Maintenant, remarquez la compassion que le vigneron éprouve pour l'arbre. Et remarquez la réaction du vigneron de la vigne. Il dit intrinsèquement, Seigneur, il se peut qu'il y ait une raison qui explique que cet arbre n'y produise pas de fruits. Faisons d'abord tout ce que nous pouvons pour le fertiliser, et créons l'environnement approprié tout autour de lui, puis voyons si, oui ou non, il produira. Maintenant, c'est une chose très sage qui fut dite ici, parce que bien de fois, nous nous attendons à ce que des gens, dans l'église, soit productif alors qu'on n'y leur a même pas enseigné les principes fondamentaux du christianisme. Ainsi, cette parabole est constituée de 3 points. Numéro 1, le figuier lui-même. Numéro 2, le fait que le figuier n'y porte pas de fruits. Numéro 3, le jugement dépend des résultats de la capacité du figuier à produire du fruit. Pour commencer, examinons le point numéro 1. Le figuier. Ici, nous devons nous poser la question, quelle est l'importance de la parabole à propos d'un arbre? Pourquoi un arbre? Dans son sermon, ses paroles infaillibles de promesse l'un. 20 janvier 64 frère Branham dit, 32 mais voici de quoi Jésus parlait. À mon très humble avis. Ce qu'il disait concernant cette génération-ci. En d'autres termes. La génération qui verrait le figuier bourgeonner. Voyez-vous. Il dit ici, quand le figuier commence. Devient tendre qu'il fait pousser ses branches. Vous dites que l'été est proche. De même, vous voyez, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier. Et il y a quelques semaines, nous vous avons montré qu'une génération vit 70 ans. Et si elle jouissait d'une bonne santé, 80 ans, comme nous le voyons dans Psaume 90, 10 les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'estère que peine et misère. Car ils passent vite. Et nous nous envolons. Maintenant, revenons à ce que frère Branham nous enseigne ici. Et le figuier représente toujours Israël. Et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération Néhémie passera pas que toutes ces choses n'arrivent. 33 Et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour avoir le même. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli, et la chose suivante concerne sa venue. Et un peu plus loin dans le livre de Luc, nous découvrons où Jésus raconte également une autre parabole au sujet d'un figuier. Luc 21h29 et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. 31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération Néhémie passera point, que tout cela n'arrive. Or, remarquez que Jésus parle en parabole, et il dit aux gens que quand le figuier, que nous savons représente Israël, parce que le pays est identifié par ses figuières, que quand ce figuier, Israël commence à bourgeonner, ce qui signifie quand il commence à porter les fruits, qu'il est terre sans se produire. Alors nous savons que l'été ou la fin est terre proche. Allons encore dans Matthieu 24, 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération Néhémie passera point, que tout cela n'arrive. Maintenant, dans cette parabole, il est aussi question d'Israël. Parce que le figuier représente Israël. C'est son arbre, qui grandit partout à travers ce pays. Et nous savons qu'Israël fut déclaré l'État d'Israël le 14 mai 1948, et donc, depuis le 14 mai 2018. Cela fait 70 ans. Maintenant, je n'ai mis c'est pas si cette date a une quelconque importance. Puisque c'est le 17 mai 1963 que le Seigneur Esther apparut dans la nuée au-dessus de Tucson. Maintenant, c'est important parce qu'un prophète confirmé nous a dit que Noé et Esther aussi entraient dans l'arche le 17 mai, puis vinrent les nuages. Sur les ailes d'une colombe 5-11-28 au 82 Noé reçut un signe, comme le frère vient de le chanter. Dieu était courroucé. Et rien n'allait arrêter sa colère. Car il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Noé avait trouvé grâce devant Dieu et avait construit une arche selon les constructions. Les instructions plutôt, qu'il lui avait données, et s'était mis à flotter sur les eaux. 83 Je peux imaginer son. Ce qui arrivait en ce temps-là quand les gens dirent, ce vieil homme là-haut sur la colline, ce vieux fanatique qui construit une arche et qui dit qu'il va pleuvoir, alors qu'il n'a jamais plu. Mais il. 84 Noé dit, il va pleuvoir de toute façon. 85 Puis je sais que le jour où il entra, je pense que, Jérémie peut pas me souvenir quel jour c'était, je crois que c'était, le 17 mai. Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. 86 Il commença à y avoir des nuages, la pluie se mit à tomber, les égouts commencèrent à se remplir, les sources de l'abîme jaillirent, et les fontaines vomirent complètement leurs eaux. Finalement, les gens entrèrent dans les maisons, montèrent sur les toits. La vieille arche resta toutefois en place. 87 Après un certain temps, quand il y eut un amoncellement suffisant autour d'elle, elle se mit à s'élever de plus en plus haut. Les gens frappèrent à la porte et criaient, mais cela fut peine perdue, car Noé et Néhémie ne pouvaient pas ouvrir la porte. Dieu l'avait fermée, Dieu seul pouvait l'ouvrir. 88 Ainsi on est stérile de notre arche, Jésus-Christ. Dieu nous ouvrit la porte sur le calvaire et il la fermera. Aussi vrai qu'il l'ouvrit. De nouveau, nous voyons dans le livre de Marc qu'on nous enseigne cette même parabole. Marc 13h28 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 29 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. 30 Je vous le dis en vérité, cette génération n'y passera point, que tout cela n'arrive. Maintenant, cela nous amène au second point, nous voulons parler à propos du fruit, parce que Jésus Néhémie parle pas que d'un figuier, mais il parle du figuier qui Néhémie porte pas de fruit. Et nous voyons un épisode de sa vie où il est exactement question de cette parabole. Matthieu 21h18 le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Maintenant, remarquez attentivement que c'est la clé de cette scène de la vie de Jésus. Il avait faim, alors il a remarqué un figuier, il s'est détourné de sa route pour tirer de quoi manger de cet arbre. 19 Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit n'émanait de toi. Et à l'instant le figuier sécha. 20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent, comment ce figuier est stérile devenu sec en un instant? 21 Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous n'ayez mis doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, la question Esther, pourquoi Esther ce que Jésus a-t-il maudit ce figuier en particulier? Il se peut que vous dites, eh bien, c'est Esther parce qu'il n'a mis porté pas de fruits. Cependant, nous découvrons que cette même parabole nous Esther racontée dans plusieurs autres endroits dans les Saintes Écritures, et qu'on nous indique que ce n'était pas encore la saison où on trouve les fruits sur l'arbre. Ainsi, nous devons nous poser la question, pourquoi Jésus a-t-il maudit cet arbre-là? Dans Marc 11h12, nous lisons, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Remarquez encore, l'histoire nous dit qu'il eut faim. Très apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Maintenant, il n'est pas spécifiquement dit ici qu'il cherchait des figues. mais il cherchait quelque chose à manger. Et, s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Maintenant, l'auteur de ce livre a spécialement mentionné que ce n'était pas encore la saison où les figues apparaissent sur l'arbre. Alors qu'est-ce ce que Jésus cherchait dans cet arbre, si ce n'était pas encore la saison où les figues apparaissent? C'est-ce la notre question, car ce n'était certainement pas des figues qu'il cherchait à manger. La deuxième question que nous devons nous poser est-ce que si ce n'était pas la saison des figues, alors pourquoi Jésus a-t-il maudit cet arbre pour commencer? 14 Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne n'ait mis mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Par conséquent, sans savoir ce que Jésus cherchait à manger sur cet arbre, nous n'y comprendrons pas pourquoi il l'a maudit. Maintenant, continuons de lire cette histoire en prenant au verset 19. Marc 11h19 Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Vint le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Maintenant, nous sommes prêts de découvrir pourquoi Jésus a maudit cet arbre. Cela devait être en rapport avec ses racines. 21 Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » 22 Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il n'est mis doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 Sester pourquoi je vous dis, tous ceux, que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, Jésus n'aimait leur disait pas, qu'il pouvait aller partout et commencer à parler et ces choses allaient s'accomplir. Ce qu'il leur enseignait, c'était comment s'approcher de la foi. Souvenez-vous, Jésus Néhémie faisait rien à moins que le Père Néhémie lui ait montré premièrement. Nous le savons tous très bien. Sester Jean 5h19 et 30. Et Sester toujours la clé pour que nous ayons la foi, et que nous manifestions notre foi aux autres. Ce n'est-ce pas ce que vous voulez, mais ce que Dieu vous a montré. Sester ça que vous voulez. La foi est-ce une révélation? Pas une action. Si la foi est-elle une révélation, alors la foi se fonde sur quelqu'un. Dieu, vous révélant quelque chose. Par conséquent, Dieu a-t-il fait la promesse ou Dieu n'a-t-il pas fait la promesse? Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il maudit l'arbre? Parce qu'il n'a pas trouvé une certaine chose dans cet arbre qui prouvait que l'arbre était en mesure de produire du fruit. Écoutez, nous savons tous que ce n'était pas encore la saison où des figues poussent sur les figuiers. N'est-ce pas? Alors, la malédiction n'était pas due à l'absence de figues, mais à une autre raison. Jésus n'était pas un simplet qui allait ici et là faisant étalage de la puissance qu'il avait reçue de son Père. Il y avait une chose spécifique qu'il cherchait dans cet arbre et quand il n'a pas vu cette certaine chose, il a su que cet arbre était déjà maudit. Ainsi, il pouvait prononcer ce que Dieu lui avait déjà montré. Dans son livre The Life and Time of Jesus the Messiah, La vie et l'époque de Jésus, le Messie not du Trad. Écrit par Alfred Edersheim en 1883. Il est-ce dit, au environ de 1881, Edersheim écriva à propos de Jésus fourrant la main dans les branches d'un figuier et la ressortant sans fruit, proférant une malédiction sur l'arbre. Il vint à l'esprit du docteur, Edersheim que Jésus a été jugé et crucifié au printemps, et que le figuier Néhémie portait pas de fruits avant les premiers jours de l'été. Edersheim était certain qu'il avait trouvé le Messie dans un exemple médiocre de devisède. Il a rangé son stylo fait ses bagages et prit un steamer à Liverpool pour la Terre Sainte. C'était au printemps. Il n'allait pas écrire une ligne de plus avant de savoir ce que Jésus avait à l'esprit. Après un voyage épuisant, il alla de Haïfa à Jérusalem monter sur le dos d'une bête, en descendit et chercha un figuier. L'ayant trouvé, il plongea la main dans les branches, et il retira la main, et découvrit quelques feuilles de l'automne dernier, et quelques substances rondes et grises semblables à des pastilles. Ederson se mit à la recherche de piétons, jusqu'à ce qu'il en trouve un qui pouvait parler allemand. On lui a dit que ces petits objets gris étaient comestibles, que les voyageurs s'en servaient comme coupe-faim, jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre une auberge. Si vous n'en trouvez pas sur les branches de l'arbre au printemps, on lui dit, l'arbre n'y portera pas de fruits en été. Alors l'étudiant allemand revint en Allemagne où il continua d'écrire The Life and Times of Jesus Messiah, la vie et l'époque de Jésus, le Messie. Note du trad. Qui est un classique sans précédent. Maintenant, ce que je veux porter à votre attention ici, c'est que Jésus n'y cherchait pas des figues, mais plutôt les fruits ou les preuves que ce figuier était en mesure de produire des fruits. Dans le livre de Jérémie, on nous raconte une histoire qui est une allégorie qui représente Israël, et son peuple étant typifié par la figue. Jérémie 24. Un l'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jeconiah, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. De l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on a émis pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. 3. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises et Néhémie peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. 4. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. 6. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et Néhémie les détruirai plus. Je les planterai et Néhémie les arracherai plus. 7. Je leur donnerai un cœur, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. 8. Et comme les mauvaises figues qui Néhémie peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécia, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. 9. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. 10. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Maintenant, cela nous amène au fruit lui-même. Dans l'épître de Jacques 3:1-2, nous lisons, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée Néhémie peut pas non plus produire de l'eau douce. En d'autres termes, nous devons porter ce que nous avons été ordonnés à porter. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, par notre nature, nous portons ce que nous portons. Et nous Néhémie, pouvons pas porter quelque chose d'autre que ce que nous avons été appelés à reproduire. Ainsi, Nous devons regarder les fruits pour connaître l'importance de cette parabole. Nous devons aussi comprendre que Dieu Néhémie va à passer et la maudit sans raison. Dieu nous a donné et écrit, sans abréger, les solides raisons vont à la malédiction dans Deutéronome au chapitre 28, le livre des deux lois. Maintenant, ce n'est pas comme si Dieu a deux lois, mais les deux lois sont la loi de la bénédiction et la loi de la malédiction. Et nous découvrons que tout cela se résume à la façon dont nous réagissons à la voix de Dieu. Si nous l'écoutons, nous sommes bénis, et cette bénédiction viendra sur nous. Et avant que nous comprenions pleinement ce qui se passe, il devancera notre situation. Deutéronome 28, ainsi tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deux, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Trois, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Quatre, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. 6. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. 11. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu n'es seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. 14. Et que tu n'es te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Maintenant, je veux que vous remarquiez que pour chaque bénédiction que Dieu a promise et chaque circonstance dans laquelle nous devons être bénis, Dieu a également établi d'être maudit dans les mêmes choses. Mais tout dépend de votre attitude vis-à-vis de la voix de Dieu. Deutéronome 28, 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 16. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui te rapporte à m'abandonner. Maintenant, je vais m'abstenir de lire tous les chapitres faute de temps, mais vous pouvez le lire par vous-même, pour voir que les mêmes choses dans lesquelles nous sommes bénis, nous pouvons aussi être maudits. Tout dépend de la façon dont nous respectons la voix du Seigneur, notre Dieu. Ainsi, remarquez que ce n'est pas vos fruits qui causent la malédiction, et ce n'est pas ce que vous faites, ou ce que vous n'aimez faites pas qui cause la bénédiction ou la malédiction, mais c'est votre attitude et votre respect ou le manque de respect que vous avez vis-à-vis de Dieu et de sa parole. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne clairement dans Romains 9:16. Ainsi donc, cela n'est dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité des saints pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, « Pourquoi blâme-t-il encore ? » Car qui est ce qui résiste à sa volonté ? 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. 23 Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire? En d'autres termes, qu'en est-il si Dieu permet les ténèbres de la nuit afin de faire luire l'éclat et la splendeur du jour? Qu'en est-il s'il permet qu'il y ait des méchants afin de faire luire les justes? Qu'en est-il si Dieu permet la tempête et la pluie afin d'apporter la fraîcheur qui vient après la pluie? Vous savez combien l'air sent bon après la pluie et l'orage? Eh bien, Dieu n'aime fait pas les choses sans raison. Comme Salomon a dit, il y a un dessein et une saison pour tous ceux que Dieu fait sous le soleil. Dieu est très précis dans ce qu'il fait, et il a un dessein pour toutes choses qu'il fait sous le soleil. Ecclésiaste 3, 1 pour tout, il y a une saison, et un temps pour chaque dessein sous les cieux, traduction de la version autorisée du roi Jacques pour ce verset. Note du trad. 2 Un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, autrement dit, un temps et une saison pour la moisson et un temps pour arracher ce qui a été planté, 3 Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, 4 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, 5 Un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, 6 Un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, 7 Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, 8 Un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Et Dieu a un dessein derrière chaque chose. Alors, quel est le dessein de la malédiction de l'arbre? Parce que cet arbre Néhémie pouvait pas être maudit à moins qu'il n'ait été déjà maudit au ciel. Et c'est la clé à notre prière et à notre foi. D'accepter ce que Dieu a déjà fait. Jésus savait que cet arbre était déjà maudit et Néhémie pouvait produire de fruits, même avant la saison et ainsi, il pouvait maudire l'arbre, parce qu'il était déjà sous une malédiction, et le fait que cet arbre n'avait pas en lui les éléments essentiels pour pouvoir produire les fruits désirés, c'est pourquoi il pouvait être maudit. La malédiction n'est pas due à ce qu'il a fait ou n'a pas fait. La malédiction est faite au ciel et ensuite, elle est prononcée ou reconnue sur la terre. Nos paroles déclarent ce que Dieu a déjà prononcé. Point numéro 2, le fruit. Premièrement, nous devons comprendre que le fruit montre qu'il y a la vie dans l'arbre. Par conséquent, sans fruit, il n'y a là-dedans pas de représentation de la vie pour commencer. Ainsi, tout ce qui vous reste, c'est la forme. Et Jésus nous a avertis qu'au temps de la fin, les gens auront l'apparence de la piété, être comme Dieu, mais renieront ce qui en fait la puissance, et la puissance est la manifestation de la révélation. Romains 1h16 Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Ainsi, nous voyons au point numéro 2 que les fruits sont une indication que l'arbre produit quelque chose pour quelqu'un, et qu'il est utile à quelque chose. L'absence de fruits montre qu'il n'est pas utile aux autres, mais qu'il n'est mis fait qu'occuper l'espace, et entraver. C'est pourquoi, Jésus a dit, pourquoi, occupe-t-il la terre inutilement? Ou pourquoi le laisser prendre la bonne terre, alors qu'il n'utilise pas ce que la terre a à offrir? Et je me demande parfois, si Néhémie voit pas les choses ainsi aujourd'hui, concernant les gens de la Odyssée qui sont tièdes à l'égard de Christ et à l'égard du service de son royaume. Point numéro 3. Les fruits représentent l'enseignement pour la saison. C'est très important, car quand il tendit la main pour voir quel genre de fruits il portait, il n'y avait pas du tout d'enseignement. Et sans enseignement, ce qui est la doctrine, l'arbre n'est bon que pour une seule chose, du bois à brûler. En d'autres termes, une église ou un peuple sans la doctrine n'est bon que pour la destruction et le feu de la tribulation. Dans son sermon, Les oins du temps de la fin 65-07-25, M. frère Branham dit, 59 remarqué, mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On n'aimait cueille pas des raisins sur des chardons, même si le chardon peut être en plein dans la vigne. Ça, c'est possible. Mais c'est au fruit qu'on saura. Le fruit, c'est quoi? La parole. Le fruit pour la saison. Voilà ce que c'est, leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison, l'or qu'il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l'homme, mais, ou bien la parole de Dieu pour la saison? Ainsi, il a dit que vous connaîtrez s'ils sont, oui ou non, la semence de Dieu par leur enseignement de la saison. Par rapport à ce qu'ils enseignent comme étant ce message. Par rapport à ce qu'ils enseignent comme étant le message pour cette saison. Est-ce ce qu'ils présentent juste un homme, ou le Dieu qui est descendu et qui a utilisé cet homme-là? Vous présente-t-il juste les bandes ou ce qui est enseigné sur ces bandes? Est-ce ce qu'ils font du prophète de 7 heures le fils de l'homme? Ou est-ce ce que Néhémie font que dire ce qu'il a dit? Que le prophète n'est qu'un fils de l'homme révélant le fils de l'homme? Est-ce ce qu'il vous dirige vers William Branham ou est-ce qu'il vous dirige vers celui vers qui William Branham vous a dirigé? Est-ce ce qu'il vous dirige vers un homme ou est-ce ce qu'il vous dirige vers le Dieu de cet homme? Car Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et William Branham a dit que cela veut dire, vous les reconnaîtrez par ce qu'ils enseignent comme étant le message de l'heure. Dans son sermon, l'invasion des États-Unis 54-0509 frère Branham dit, 89 je. Parfois, je pense à mon ministère, je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel. Et je dis, oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi? Voyez? S'ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus. Mais, oh Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C'est toi que je veux représenter. celui devant qui je me tiendrai un jour, les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant, à te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision. Exaltons Christ. Pour terminer, laissez-moi partager quelques citations que la famille Stark m'a fait part cette semaine. Dans son sermon, vous devez naître de nouveau dim 31 décembre 61. M. frère Branham dit, nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant sobrement et avec la crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus sachant que nous n'aimi, pourrions pas venir en disant, maintenant, Père, voici William Branham ou Herman Neville, ou n'importe qui, nous serons rejetés aussitôt. Mais nous avons de l'assurance parce qu'il a dit, quoi que ce soit que vous demandez à mon Père en mon nom, cela vous sera accordé. Ainsi, je n'y crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, j'obtiens alors ma requête, car c'est en lui que je crois. C'est en lui que nous vivons et avons notre être. Et nous sommes reconnaissants ce matin, ô Dieu, pour tout ce qu'il représente pour nous, et c'est toute notre vie et tout notre être. Maintenant, j'espère que vous comprendrez que ce sermon visait à nous aider à comprendre comment nous devons nous approcher de la foi, et il n'existe qu'une seule foi et c'est la foi du Fils de Dieu, qui est la révélation de Jésus-Christ. Et si nous nous approchons de Dieu d'une autre façon qu'à travers son Fils, nous pouvons avoir la garantie que nous n'y recevrons rien du Seigneur. Romains 5, 1 étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Éphésiens 3:11 selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 12 en qui nous avons, par la foi en lui, la Bible du roi Jacques dit, par sa foi à lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. De nous approcher par la foi de qui? Il parle du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la liberté de nous approcher par la foi ou la révélation de Jésus-Christ. Et non par la révélation de William Branham ni de Kiel Esther, parce qu'il dit de lui-même, l'influence SEM 30 novembre 63 des 113 si vous voulez voir combien vous êtes grand, plongez votre doigt dans une piscine ou dans un seau d'eau, puis retirez-en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez mis votre doigt. Vous n'êtes rien. 114 Dieu peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Mais, nous n'y pouvons pas nous passer de lui. Il nous faut l'avoir. Lui. Car il est la vie. Et lui seul. Il n'y s'agit pas de connaître son livre. Il n'y s'agit pas de connaître ceci. Ou de connaître cela ni de connaître un credo. Mais le connaître. Lui. C'est la vie. Le connaître en tant que personne. Christ en vous. La parole faite chair en vous. C'est cela le connaître. Lorsque vous et lui, vous devenez un. Comme je l'ai dit hier soir dans le super signe. Il faut qu'il entre en vous. Vous. Dieu et l'homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre petitesse. L'influence SEM 12 janvier 63 E173 eh bien, ils avaient deux ailes dont ils se couvraient les pieds. Qu'était-ce? L'humilité dans sa présence. E174 Moïse a ôté ses souliers dans la présence de Dieu. Peut l'Esther tomber par terre pour la baiser? Pour ainsi dire. Il était dans la présence de Dieu. Jean-Baptiste a dit, je n'y suis même pas digne de délier les souliers de ses pieds. E175 les ailes recouvrant leurs pieds. L'humilité. Veillant sur l'endroit où ils marchent. Sur ce qu'ils font. Réalisant qu'ils sont sur une terre sacrée. Oh. Si nous faisions cela. Nous n'y marcherions jamais dans les ces endroits malséants. Nous n'y ferions jamais ces choses qui sont fausses. Maintenant, remarquez. Toujours. Écoutez. Soyez conscient de votre petitesse. Qui êtes-vous? Plongez votre doigt dans un seau d'eau. Retirez-le et trouvez le trou dans lequel vous avez plongé votre doigt. Puis dites, c'était moi. Vous n'êtes rien. Votre absence, Naomi, sera pas regrettée après, peu après votre départ. Il y aura ici un cortège funèbre, et s'estère tout. Mais votre influence subsistera encore et encore et encore. Pourquoi la petite Bethléem? Psaume 14 décembre 63 41. L'autre jour, l'une de mes fillettes me posa une question au sujet de l'importance. J'ai dit, eh bien, on parlait d'un certain homme important. Eh bien, il s'agissait du président qui venait d'être assassiné, et nos cœurs en étaient attristés. Et j'ai dit, eh bien, c'était un homme important. Les journaux ont mis l'accent là-dessus, et la télévision a filmé cela. Cela a coûté des milliards et des milliards de dollars au gouvernement pour diffuser cela. Ce qui est en ordre, c'est leur affaire. Mais j'ai dit, ce petit prédicateur pentecôtiste là-bas en Caroline, chez qui un homme est entré, un homme ivre muni de son fusil de chasse, il a appelé son épouse et il a abattu l'homme en plein à la chair. Ensuite il a abattu son épouse. Et s'est tiré dessus. Et juste un petit article d'environ cette taille y a été consacré au dos du journal. Laissez-moi vous dire. Frère. Peu importe qui nous sommes. Si vous voulez savoir combien vous êtes important. Ai-je dit à ma fillette. Plonge le doigt dans un seau d'eau. Puis retire-le et essaye de retrouver le trou. Nous n'y valons rien. Il n'y a qu'une personne qui est importante. C'est Dieu. Nous devons nous souvenir que c'est lui seul. Souvenez-vous. Et n'oubliez jamais ce que l'apôtre Paul nous a dit au sujet de notre relation avec Dieu. Il l'a dit dans Hébreux 11, 6 sans la foi, et il n'y a qu'une seule foi et s'estère la foi de ce seul Seigneur, et comme la foi estère une révélation, ainsi nous pouvons le lire ainsi, sans la révélation de Jésus-Christ il estère impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il, Dieu, estère le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et pour clore, lisons dans Matthieu 10h41 « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Vous savez, j'entends les gens, à travers le pays, citer ce verset avec beaucoup de fierté, mais ils n'ont jamais écouté l'autre partie de cela qui dit « sourire ». Et celui qui reçoit un juste, un homme correctement sage, en qualité de juste, d'un homme correctement sage, recevra une récompense de juste. Maintenant, nous pouvons tous citer un prophète, mais pouvons-nous citer un homme correctement sage? Vous feriez mieux de recevoir l'homme correctement sage, si vous désirez recevoir sa récompense. Et l'homme correctement sage est celui qui a été fidèlement enseigné. Dans le livre de Frère Branham intitulé l'exposé des sept âges de l'Église chapitre 4. L'âge de l'Église de Smyrne p. 140. Frère Branham dit, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Voilà votre modèle. Et dans Matthieu 10h41, Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Maintenant, écoutez. Il a dit que vous devez impérativement recevoir la récompense de ce prophète. Ainsi, si Néhémie pouvait pas recevoir ce que William Branham a enseigné? Et si vous essayez de contourner la qualité de ce prophète quand vous enseignez les autres? Vous n'avez pas reçu ce que ce prophète a enseigné en qualité de prophète. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'enseigner certaines choses que William Branham enseignait. Mais Néhémie lui en attribue pas le mérite. Ainsi, ils enseignent sans reconnaître le prophète en citant son nom. Ainsi, bien qu'ils enseignent certaines des choses qu'il enseignait, ils n'y recevront rien de sa récompense. Et il a également dit, vous devez impérativement recevoir l'homme correctement sage dans sa qualité d'homme correctement sage, et faire. Vel était injuste. Il était un homme correctement sage, et si vous n'aimiez pouvez pas recevoir ce juste en cette qualité de juste, vous n'aimiez recevrez pas la récompense de ce juste. Il y a beaucoup des gens qui essaient d'enseigner ce que Frère Vel a enseigné, mais se gardent de s'identifier à lui. Aussi, ils n'aimiez recevront pas la récompense, associée à ce juste. J'ai toujours identifié mon ministère au sien et à celui de Frère Branham, parce que la lumière vient au prophète, et Frère Vel a été fidèlement enseigné par William Branham. Ensuite, il a été mon mentor, et j'ai été fidèle à me taire et à écouter, et je n'ai me suis pas arrêté là, mais je lui ai demandé d'identifier les choses qu'il enseignait avec les Saintes Écritures afin que je puisse, à mon tour, enseigner les autres. Et pour moi, cette écriture, où Jésus dit, dans Matthieu 10h41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Pour moi, recevoir le prophète en sa qualité de prophète et le juste en sa qualité de juste, c'est-à-dire comme l'avant-fruit du figuier, les petites matières grises sur le figuier, l'avant-fruit que les voyageurs mangeaient comme coupe-faim. Et quand vous recevez ce qu'un prophète enseignant sa qualité de prophète, cela vous amène au fruit, qui est Christ. Et quand vous recevez le juste enseignement d'un juste, cela vous amène à Christ, le fruit de tout cela. Dans son sermon, Dieu se cache et se révèle dans la Simplicité 63-03-17-M31. Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière, et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Il n'y a pas à sortir de là. Rien ni peut l'empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous êtes-vous être tellement désorienté, et l'Esprit est attristé. Frère Branham dit dans son sermon, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je 26 avril 56-49 marqué, si Jésus a fait ces choses en ce jour-là, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est tenu à ses paroles. Maintenant, son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de ce vase sanctifié. Remarquez, c'est un pluriel ici et Dieu a placé dans l'Église, quoi? Premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs. Est-ce vrai? Pour le perfectionnement de l'Église. C'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas le prédicateur qui prêche. C'est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n'est pas le prophète qui a la vision. C'est Dieu qui parle au travers de lui. Je n'ai mis fait que ce que le Père me montre premièrement. Jésus se tenant sur l'autorité de la parole mère 17 février 54 14. Soyez toujours révérencieux pendant le service, particulièrement durant le service de guérison. Ayez un cœur ouvert, un esprit ouvert. Dites simplement simplement, maintenant Seigneur, je suis ici pour apprendre. Viens m'enseigner. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit vous enseignera. Si vous venez avec une sorte de critique moqueuse, tout ce que vous vous attendrez à voir, c'est-à-dire, ce que vous verrez et rien d'autre. Si vous venez vous, attendant simplement être déçu, c'est-à-dire ce que vous aurez toujours ce à quoi vous vous attendez. Si vous venez pour recevoir, vous vous attendrez à recevoir, et vous recevrez juste ce que vous vous attendez à recevoir. Dieu fait toujours cela. Il a juré par sa parole. Et maintenant, il se peut que quelque chose soit dit qui serait un petit peu différent de vos enseignements religieux. Vous pourriez être catholique, ou vous pourriez être autre chose, d'une autre forme de religion, ou un protestant qui n'y croit pas à la guérison divine. Quoi que ce soit, considérez la chose juste telle qu'elle est. Voyez cela du point de vue de la parole de Dieu. Matthieu 10h41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.